Céline Picmal, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes gérante chez Comgest. On va faire avec vous un bilan et perspective, un bilan de l'année 2016 et puis des perspectives. Alors, commençons par la Fed, si vous voulez bien. Réserve fédérale américaine qui a donc enfin augmenté ses taux et puis qui a commencé à évoquer l'année 2017. Est-ce que pour vous, ça marque vraiment une rupture sur les marchés, même si les marchés ont plutôt bien réagi, mais en tout cas, un nouvel environnement qui se dessine?
En effet, oui, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, c'est un point de rupture. Cette annonce qui a été faite par la Fed hier, parce que ça signifie qu'on est en train de petit à petit retrouver un environnement plus normal avec un coût de l'argent, ce qu'on n'a pas connu depuis un petit moment, et ce qui devrait normalement inciter les investisseurs à réfléchir plus et à investir de façon beaucoup plus rationnelle, ce qui a peut-être un petit peu manqué au cours des dernières années. Donc c'est, selon moi, finalement un événement assez positif que ce qui est arrivé cette semaine. Alors maintenant, point de rupture, de ce point de vue-là, oui, mais point de rupture sur les marchés financiers, je ne suis pas forcément sûre. Je ne suis pas forcément sûre parce que ça entraîne une rupture sur le marché obligataire qu'on avait déjà anticipé de façon importante parce que je regardais l'évolution des taux d'intérêt américains ce matin. On est passé de 1,40 à 2,56 en l'espace de 5 mois, depuis le mois de juillet. Donc on a eu déjà un mouvement extrêmement important de plus de 110 points de base sur l'espace de quelques mois sur les marchés obligataires. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'argent va devoir s'investir quelque part.
Oui, alors on retrouve ce schéma-là en disant, bon, pendant effectivement, on voyait les banques centrales dire, bah, allez vers les marchés actions quelque part, dire aux investisseurs, allez chercher du rendement, prenez du risque. Donc les investisseurs allaient sur la partie action. Là, si effectivement on commence à avoir cette hausse de taux, les questions vont se reposer d'allocation d'actifs.
Alors, les questions vont se reposer, mais à mon sens, on va surtout commencer par avoir un petit nettoyage du côté des obligations. Parce que depuis 2008, on a eu un investissement massif sur les marchés obligataires au détriment des marchés actions auxquels personne n'a cru depuis le début de cette hausse qui a quand même duré maintenant quasiment 7 ans. Donc, ça fait 7 ans qu'on a un marché haussier sans que les investisseurs n'y croient, sans que les fonds de pension, sans que les particuliers n'y croient. Et là, nous venons peut-être de vivre un moment de bascule de ce côté-là. On va peut-être rentrer dans cette partie qu'on appelle la partie euphorique du marché, où on va se dire, bah, finalement, les étoiles sont alignées pour le marché action, et puis bah, j'y crois, parce que de toute façon, je ne peux pas tellement faire autre chose, et puis j'ai peur de me faire pincer sur les obligations, et cette peur, je ne l'avais pas auparavant. Avant, je me disais, les marchés obligations ne me rapportent pas grand-chose, mais au moins, je suis tranquille, alors que sur les actions, j'ai du risque. Aujourd'hui, la perception peut changer. On peut se dire, bah, finalement, c'est peut-être sur les obligations que je vais me faire pincer. Donc, j'ai peut-être intérêt à aller ailleurs ou peut-être sur l'immobilier que je vais me faire pincer parce que si les taux d'intérêt montent, on peut avoir des chutes des prix de l'immobilier comme on l'a en ce moment, par exemple, à Londres. Et donc, finalement, pour sauver mon capital, pour épargner, bah, peut-être que j'ai intérêt à aller vers une classe d'actifs qui me semblait a priori plus risquée, mais qui est finalement moins risquée que ce que j'avais en tête. Donc c'est cela, à mon avis, qui peut un petit peu changer la donne pour les actions. Et c'est pour ça que malgré, on s'était vu en septembre, et à l'époque j'avais dit, après la hausse post-Brexit, que je me sentais toujours à l'aise avec les marchés actions, je pense qu'aujourd'hui, même après la hausse suite à l'élection de Trump, je me sens toujours à l'aise sur les marchés actions à cause de ce momentum qu'on peut avoir de flux d'argent qui va passer des obligations vers les actions.
Alors, on avait aussi des réactions sur les matières premières, notamment le pétrole. Là aussi, est-ce qu'on peut se dire que peut-être que l'environnement 2017 ne sera pas le même, qu'on va commencer à avoir peut-être une remontée? Alors, quand on regarde les autorités internationales de l'énergie, c'est plutôt deuxième semestre, mais on sent qu'on arrive peut-être à un changement aussi de ce côté-là.
Alors, sur ce qui est matières premières, pétrole, par contre, là, je pense qu'on a eu un mouvement important qui a déjà eu lieu, qui est plutôt, à mon sens, derrière nous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour deux choses, deux raisons. La première, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la Fed et des taux d'intérêt qui montent aux États-Unis. C'est favorable à la hausse du dollar. Et on a toujours vu, historiquement, que quand le dollar est fort, les matières premières sont faibles. Donc je vois mal pourquoi est-ce qu'il y aurait une dichotomie aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de plan de relance aux États-Unis de M. Trump. Mais il faut savoir que la Chine pèse 5 fois plus que les États-Unis dans les demandes de matériaux dans le monde. C'est 50% de la demande de matériaux. Les États-Unis, c'est moins de 10%. Donc, je pense qu'on fait un tout petit peu peut-être fausse route en pensant que là, de ce côté-là, il y a un changement important. Je pense que sur les matériaux et l'énergie, il y a des phénomènes structurels d'ampleur. On a eu effectivement une demande massive qui était venue de la Chine, mais il va falloir maintenant qu'on nettoie cette surcapacité qu'on a notamment dans la production d'acier ou de papier en Chine. Nous n'en sommes pas encore là. Et à un moment où on aura un nettoyage important, on pourra réenclencher un cycle de hausse. Et ça arrivera normalement quand on aura plutôt un dollar faible. Et nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Donc, par contre, je me fais peut-être assez peu de soucis sur le fait qu'on puisse avoir une hausse pérenne du côté des matériaux et de l'énergie.
Alors, ça pose la question effectivement des marchés émergents aussi, puisqu'on parlait de devises avec la hausse du dollar, hausse de taux aux États-Unis. Comment on analyse aujourd'hui l'investissement sur les marchés émergents ?
Alors effectivement, c'est un environnement qui est plus compliqué hein, sur les marchés émergents que ce qu'on a pu connaître par le passé. C'est plus compliqué parce qu'effectivement, la hausse du dollar et éventuellement la faiblesse des matières premières ne devraient pas être favorables aux marchés émergents. C'est pour ça que chez Comgest, nous nous concentrons sur des pays qui vont être isolés de ces tendances, comme la Chine et l'Inde, que nous privilégions dans nos portefeuilles, notamment la Chine qui représente aujourd'hui 40% d'un portefeuille comme Magellan et qui va représenter 16% d'un portefeuille comme Comgest Monde, qui est notre fonds sur les actions internationales. Pourquoi se focaliser sur la Chine ? Parce que c'est un pays qui ne va pas souffrir de la hausse du dollar, contrairement au Brésil ou à la Russie, et c'est un pays qui n'est pas exposé aux matières premières. Et par contre, c'est un pays qui, en termes de valorisation, est très peu cher et qui est très, très mal aimé aujourd'hui, puisque la Chine est en bear market depuis quasiment 6 ans. Donc du coup, on a des opportunités intéressantes et on a des choses à faire sur le marché chinois aujourd'hui. Mais c'est un petit peu une exception. Je pense que parier sur le fait qu'on va avoir des flux d'investissement massifs sur les marchés émergents, c'est peut-être un peu simple. On a eu un retour d'appétit pour les marchés émergents cette année. Je pense que l'essentiel est peut-être un petit peu derrière nous et que les choses pourraient être un tout petit peu plus compliquées d'une façon macroéconomique pour les pays émergents. Et on le voit avec la Turquie d'ailleurs en ce moment.
Alors le mot de la fin sur l'Europe, on parlait des États-Unis tout à l'heure avec Dow Jones qui était au plus haut. L'Europe, ça a été moins facile cette année. Est-ce qu'il y a des choses à faire en Europe ?
Alors, il y a sûrement des choses à faire en Europe. Cependant, je tiens à souligner aujourd'hui que la valorisation du marché européen, quand on neutralise le cycle économique, est de 18 fois, donc on n'est pas particulièrement pas cher. On a eu un retour d'appétit pour les entreprises européennes avec cette élection de M. Trump, mais on a une visibilité qui est faible, puisqu'on a des élections qui vont arriver au cours de l'année 2017. On ne sait pas encore ce qui va se passer sur les banques italiennes. On a des banques européennes qui sont très exposées à la Turquie. Donc on a des incertitudes majeures du côté de l'Europe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans nos portefeuilles, on reste encore extrêmement prudents sur l'Europe, mais par contre, on reste extrêmement favorable au Japon. Donc je voulais juste en dire un mot aujourd'hui parce que, à mon sens, c'est la zone qui peut-être tirer son épingle du jeu. Parce que pour le Japon, par contre, vous avez un alignement de planètes qui est assez fascinant aujourd'hui. Vous avez une devise qui est faible, vous avez des révisions en hausse du côté des bénéfices à cause de la faiblesse du yen, vous avez une exposition des sociétés exportatrices au plan de relance qu'on pourrait avoir aux États-Unis. Alors que les industriels américaines vont finalement pâtir de la hausse du dollar, elles vont profiter de la faiblesse du yen, et on a une liquidité qui est abondante avec une banque centrale japonaise qui laisse couler les vannes, et on a vu des investisseurs internationaux cette année vendre massivement le Japon. Donc c'est une zone qui est sous-détenue et qui est sous-valorisée, puisque aujourd'hui le Japon se paye 14 fois les bénéfices de l'année prochaine. Donc nous, on reste convaincus que s'il y a peut-être quelque chose à faire l'année prochaine, pour 2017, ça serait plutôt du côté du Japon et de la Chine, plutôt que de se focaliser sur les États-Unis avec America Back et Great Again, ou l'Europe sur laquelle on a des incertitudes. Donc on a un marché qui est très cher et un marché où on a des incertitudes, et on a une zone sur laquelle finalement les gens ne regardent pas beaucoup, n'ont pas leur attention portée aujourd'hui, qui pourrait sortir son épingle du jeu.
Ben on en reparlera. Merci, Céline Picma.
Merci, Didier.